Votre club, les Girondins de Bordeaux, votre cœur, Marine et Blanc, et votre émission, c'est Girondins Analyse, et c'est tout de suite sur RG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rgfm.fr.
Il va aller dans la surface, mise à ravi, il va essayer de centrer. Oui, ouais. Et il bute. But pour Bordeaux.
C'est super, c'est quel bravo, but. C'est formidable.
Quel but de Didier Tolon qui voilà. Ouvre le score ici.
Frappe de Zidane qui allume Monsieur Caca.
Il est beau en pivot.
Dugarry.
Le but de Christophe Dugarry. Et voici 2-0. Le Milan AC est mené ici à Bordeaux par les Girondins. 2-0. Allez, 3-3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface.
Allez.
Frappe et but. Oh, quel but. Super. Oh là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel ?
Mission 100% supporter à Marine et Blanc, ça va mieux quand j'enclenche le bouton. On est ravis de vous retrouver encore une fois. Hein. Donc en ce lundi 21 octobre pour une nouvelle session de Girondins Analyse. Avec ce soir un invité exceptionnel. Il va lui-même se présenter dans quelques secondes. Puisque nous avons Nicolas Orcade avec nous, sociologue. Je pense que vous connaissez de nom, voilà, spécialiste du football et des supporters. On va donc revenir durant les deux heures d'émission avec lui sur plein de petites choses qu'on a à lui demander par rapport notamment à ce qui se passe à Bordeaux en ce moment, un petit désamour du public. On va donc revenir avec lui sur tout ça pendant deux heures. On va vous rappeler que si vous souhaitez nous appeler pour réagir, eh ben vous le faites au 05 56 35 31 31 05 56 35 31 31. On vous passera à l'antenne. Et si vous voulez bien entendu également poser vos questions via le chat, il n'y a rien de plus simple. Hein. Seb est connecté. Bonsoir Seb.
Bonsoir, oui, connecté, oui, ça va venir.
Ah bon, bah dans quelques instants, voilà. Bon, ouais, on a pris un petit repas.
On donc, a pris voilà. Un petit repas, oui, c'est ça.
On va donc, du coup, commencer dans quelques minutes. Donc voilà, n'hésitez pas simplement à venir nous poser vos réactions, vos questions sur le chat. Vous allez donc sur le site de girondin33.com ou girondinanalyse.com.
Ouais, on essaiera de si ça recoupe pas avec certaines questions. Enfin,
exactement.
Oui, parce que quand même, on les prépare toutes, mais celle-là, on l'a quand même spécialement préparée. On a fait des échanges de mails avec Nicolas en antenne avant pour prévoir ça. Et on annonce aussi, juste avant de prendre prendre l'antenne là pour. On s'est posé la question, est-ce qu'on le vous voit ou pas, mais bon, on va pas être hypocrite. Il nous a dit dès le début qu'on pouvait le tutoyer, donc on va faire comme les. On va pas faire justement comme les politiciens qui se vous voient sur les plateaux ou derrière les micros et qui après se tutoient. On va jouer franc jeu, tout exactement. Le monde va se tutoyer, ce sera tant mieux que.
Et ben justement, j'ai entamé. Nicolas, bonsoir, comment vas-tu?
Je vais bien.
alors écoute, donc on va revenir avec toi, voilà, donc sur le football en général. On va commencer avec une petite question qui, je crois, t'intéresse plutôt, puisque on va parler, du supporterisme en France.
T'avais pas dit que tu le laissais se présenter d'abord?
Oui. Si, exact. Présente-toi.
Parce que là, jusqu'à présent, on a juste dit qu'il était sociologue et qu'il parlait des supporters.
Je l'ai annoncé en plus, et voilà, du coup. Je demande juste de parler bien devant le micro histoire qu'on t'entende bien. Tu peux le rapprocher.
Voilà. Bonsoir. Donc, Nicolas Orcade, effectivement, je suis sociologue et je travaille sur les supporters de foot depuis maintenant une vingtaine d'années parce que je commence à être un peu vieux. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'invitation parce que c'est quand même assez agréable de venir parler deux heures
surtout nous qui te remercions.
Sur ces sujets-là. Et puis, puisqu'on a continué à pas se mentir, je pense que mon nom et puis mon accent laisse penser que je peux être un peu bordelais et un peu supporter des Girondins.
Bon, on va rien cacher, hein. Disons que voilà, il y a. Et donc, tu as fréquenté le parc Escure quand même quelques années durant.
Non, oui, mais j'y vais encore moins. Moi, j'habite plus Bordeaux, j'habite à Lyon, donc j'y vais beaucoup moins souvent. Mais ouais, j'étais abonné longtemps et je suis avant tout supporter des Girondins. Et précisément, si j'ai commencé à travailler sur ces sujets, c'est parce que moi, j'ai grandi au parc Escure. Je suis allé au stade depuis le milieu des années 70 très assidûment. Et puis dans les années 80, pour ceux qui s'en souviennent, il y a à la fois les Girondins comme très très grand club, mais il y a aussi le drame du Ezel, tout un ensemble de questions qui se posent. Et donc quand on appréhende les supporters dans les années 80, moi quand j'étais ado, t'as un décalage total entre ce que toi tu vis au virage sud et ce que les gens te disent en disant que vous êtes tous des barbares, etc.
C'est de là qu'est venue l'envie de
s'intéresser un peu aux supporters, notamment parce que bon, aujourd'hui on s'en rend moins compte, mais à l'époque en France, les gens connaissaient pas du tout ce monde et l'appréhendaient uniquement sous le prisme des hooligans anglais. Et donc donc au début, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, moi c'était pour essayer de voir ben, concrètement ce que font les types. Et donc un bouquin qui pour moi avait été assez marquant, c'est le bouquin que beaucoup connaissent, de Philippe Broussard,
Génération Supporter. On le conseille à tous ceux. Alors il était introuvable il y a quelques années encore, mais il a été donc
réédité.
Il y a eu une réédition par SoFoot, et donc maintenant il est plus facilement trouvable. Si jamais vous avez envie d'apprendre des choses sur les supporters, ce bouquin, tous les supporters le considèrent un peu comme une bible, et il y a un passage consacré aux ultramarines.
Il faut quand même préciser que le bouquin date de 1990.
C'est ce que j'allais dire.
Donc il y a quand même
il y a eu des évolutions.
En fait c'est un document d'histoire. Alors déjà, puisqu'on en parlait hors antenne, puisque bon, moi je collabore assez régulièrement avec SoFoot, on s'était occupé de ce hors-série supporters. Il est encore, pour ceux que ça intéresse, il peut être acheté encore, le bouquin de Broussard. Il est plus trouvable en kiosque, mais on peut l'acheter sur le site du magazine. Et c'est un document parce qu'effectivement c'est le premier ouvrage vraiment détaillé en France pour faire découvrir un peu ce monde qui était très largement inconnu. Et c'est vrai que ça a suscité des vocations. Après il y a eu d'autres gens qui ont travaillé sur ces sujets. Moi donc c'est dans cette lignée là que j'ai commencé à bosser, avec l'envie de découvrir un peu ce qu'étaient les supporters, et notamment ceux qu'on appelle ultra, parce que il se trouve que à Bordeaux le principal groupe était un groupe ultra, et donc moi je suis rentré dans le supporterisme via ce style de supporterisme. Donc moi j'ai travaillé sur les ultras à Bordeaux, et puis ensuite un peu partout en France, notamment à Paris, depuis une vingtaine d'années.
Alors je suppose que donc ce mouvement tu l'as vu changer, mais alors
on en parlera un peu plus tard.
On va en parler du mouvement ultra dans cette émission. On va également s'attacher aussi aux supporters un peu plus. Alors ceux qu'on qualifie souvent de supporters lambda, ou alors de supporters on va dire non affiliés à des groupes. Et donc j'ai envie de te demander, moi simplement, c'est quand même un choix de c'est un mouvement que tu connaissais bien, hein, le mouvement supporter. Comment est-ce que c'est perçu un petit peu dans ton entourage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, comme tu le disais, qui avait une très mauvaise réputation. Est-ce que tu sens quand même que les choses ont évolué un petit peu depuis quelques années?
Un petit peu, c'est sûr que dans les années 80, bon, moi on va pas se mentir non plus, je suis un peu un petit bourgeois, donc milieu intello, avec la chance d'avoir quand même une passion du foot, mais les gens qui sont pas de ma famille passionnés du foot, quand j'ai commencé à aller au Virage Sud, les gens me prenaient pour un fou furieux en fait. Oui. Aujourd'hui je pense qu'on peut aller au Virage Sud en étant jeune sans passer complètement pour un débile profond, donc il y a un changement qui est quand même assez important. Mais après c'est sûr que la France par rapport à d'autres pays a une culture supporter qui arrivait plus tardivement.
On en vient donc à la culture supporter donc en France. Je relance parce que c'était la question. Tout à l'heure on m'a dit que ça n'avait pas présenté. Donc la culture supporter en France, pour toi, est-ce que c'est un pays de football? Et donc vas-y, je te laisse continuer au final.
Sur la question, moi je trouve qu'il y a une question passionnante, c'est est-ce que la France est un pays de football? Parce qu'en fait, on en parle tout le temps dans les médias pour dire non, la France n'est pas un pays de football, dans un style toujours on se plaint de nous-mêmes en disant qu'on est nul, qu'il n'y a pas d'ambiance, etc. Et en fait, je trouve que la question est assez mal posée. Les réponses qu'on y apporte sont assez partielles. Déjà, la France n'est pas un pays de football. Si on regarde bien, qui c'est qui crée la FIFA, il y a des Français dedans. Qui c'est qui crée la Coupe du Monde, c'est des Français. Qui c'est qui crée les Coupes d'Europe, c'est des Français. Donc pour un pays qui n'est pas un pays de football, tu as quand même un quotidien de référence à l'échelle mondiale qui est l'équipe qui est centrée sur le foot. Déjà, c'est curieux. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est que la France s'est toujours intéressée au foot, mais le foot a longtemps été en concurrence avec d'autres sports. Il y a quand même l'image du Tour de France, par exemple, qui est quelque chose qui incarne l'identité française.
Roland-Garros, peut-être aussi, ce genre de choses.
Roland-Garros, la boxe à un certain moment, le jeu à 13 à une période, le rugby. Enfin, le foot a toujours été en concurrence avec d'autres activités. Et puis, il y a quand même, par rapport à d'autres pays, la France, c'est un pays essentiellement rural. Et le foot, ça s'est constitué en Angleterre, en Allemagne, en Italie, autour de régions très, très fortement urbaines. Et donc, avec des oppositions entre villes, entre quartiers d'une même ville, qu'on n'a pas retrouvé en France. C'est un sport de petite ville, le football, pendant longtemps, ça change vers les années 70-80. Et c'est aussi à cette période que les Français deviennent plus supporters. En fait, les Français sont toujours intéressés au foot, mais plus en spectateur, quoi. Si ça joue bien, on suit, on est content. Et vraiment, l'identité supporter de personnes qui vont suivre vraiment leur club de manière inconditionnelle en permanence, ça commence à apparaître dans les années 70, avec la valorisation du public de Geoffroy Gilles Guichard, le 12e homme, le Chaudron Vert, etc. Ouais. C'est les premières fois qu'on en parle en France. Avant, il y avait déjà des publics fervents, déjà un peu à Lens, on en parlait un peu. Il y a eu Bastia à la même époque, il y avait Marseille, Nice... dont on parlait, mais que dans le microcosme du foot. C'est à partir des années 70 et du chaudron vert qu'on commence à penser que le 12e homme peut être quelque chose qui joue un rôle dans le monde du foot. Et puis après, progressivement, la culture foot, la culture supporter, il faudrait dire, elle se développe à partir des années 80, avec là un rôle majeur du mouvement ultra qui a transformé les stades français. Et donc, quand on parle toujours de 98 comme les Français ont découvert le football, c'est vrai et faux. C'est faux parce qu'en fait, si vous regardez, il y a quand même une montée en continu des affluences et de l'ambiance dans les stades français depuis les années 80. Il y a les succès de l'OM aussi quand même en 93, du PSG en 96 en Coupe d'Europe. On est sur des périodes où le public est chaud. Le public marseillais au début des années 90, c'est un plus grand public européen. Enfin, on a du mal à le voir quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu le Vélodrome. Mmh, mais sûr, oui. C'était un très très gros stade, Marseille, en termes d'ambiance. Et le Mondial 98 a eu un tel effet parce que les Français avaient commencé à être préparés. La culture supporter avait commencé à grandir. Mais après, c'est vrai qu'avec le Mondial 98, tu passes sur autre chose. Et du coup, ça joue aussi sur certaines incompréhensions par rapport au foot. Il y a un collègue de SoFoot, Joachim Barbier, qui a fait un bouquin au moment du dernier Euro qui s'appelait « Ce pays qui n'aime pas le foot ». En disant, en gros, d'un coup, les Français ont découvert le foot dans les années 98 sur un mythe absolu de la France Black Gamber, on s'aime, c'est beau, c'est mignon.
Et qui on a beaucoup entendu parler.
Ouais, qu'on a beaucoup entendu parler. Mais du coup, les élites françaises ont eu tendance à penser que le foot, c'était un truc un peu bisounours. Alors qu'en fait, la culture foot, la culture supporter, c'est une culture populaire, c'est une culture pas toujours très propre, qui peut être paillarde, etc. Et donc, il y a une incompréhension quelque part. La France s'est intéressée au foot et à la culture supporter en supposant que c'était un truc noble, entre guillemets.
Peut-être comme la boxe, le vélo, ouais. Les sports que tu évoquais au début.
Et donc, t'as un décalage entre les élites françaises et les tribunes qu'on retrouve aujourd'hui dans les conflits dont on parlera plus tard sur qu'est-ce que doivent être les tribunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as l'impression que le stade doit être un lieu exemplaire de la société où on dit pas de gros mots, etc. Bon, c'est plus compliqué que ça, la culture foot. C'est une culture qui aussi renvoie à la fête populaire, au carnaval, avec certains excès aussi.
Alors du coup, moi, j'avais envie de te demander tout simplement, alors t'as commencé à évoquer partiellement, si je te suis bien, donc la France pays de foot, oui. Après, quand on compare notamment par rapport à certains voisins européens, on pense évidemment à l'Italie pour tout ce qui est ultra, à l'Angleterre même pour voilà tout ce qui est supporter, est-ce qu'on peut dire vraiment, alors t'as commencé à en parler, mais est-ce que la France a une vraie mentalité supporter? Et je vais commencer par te poser une question toute bête, c'est comment est-ce que toi tu définis justement le simple spectateur du supporter? C'est quoi justement donc voilà la différenciation qu'on fait d'un point de vue de sociologie du coup.
Bah, pour dire les choses simplement de manière un peu caricaturale, tu vas au stade pour trois raisons différentes qui vont se combiner selon les gens. Soit tu vas au stade parce que
c'est donc forcément quelqu'un qui va au stade.
Ouais non, tu t'intéresses au foot. Ouais. Tu regardes du foot. Tu t'intéresses au foot.
C'est vrai que maintenant avec
trois raisons.
Les médias.
Soit t'aimes le jeu. La qualité du jeu. Et t'as des gens qui n'ont regardé que le jeu et qui sont plutôt, alors à ce moment-là, sur une approche un peu spectateur. Ce que j'aime, c'est la qualité du jeu.
Limite artistique, même, j'en connais. Limite artistique, ouais. J'ai un ami qui est comme ça, il est... Ouais, un puriste, quoi.
Ouais. Après, t'as des gens qui sont attachés soit à un joueur. Il y a des gens qui suivent un joueur. Moi, je me souviens quand j'étais impliqué dans un groupe de supporters de Bordeaux, on avait rencontré un type qui était fan de Didier Deschamps. C'est quand même un truc exceptionnel. Le mec a suivi Didier Deschamps
pendant toute
sa carrière.
Milieu d'aide.
Nicolas, il n'y a pas si longtemps que ça, moi je me souviens, durant l'époque Gourcuff à Bordeaux, il y avait justement tout un groupe qui le suivait depuis Rennes, qui le suivait à Milan.
Ouais, mais Gourcuff, tu peux comprendre, quand il joue bien au football, il joue bien au football.
Didier Deschamps,
c'est violent.
Deschamps, voilà, il a dû marquer deux buts dans sa vie. Alors certes,
c'est des buts, il en marquait.
Il a un rôle.
Quand il était sur le côté.
Il a un rôle terrible dans une équipe, mais t'es amoureux de Didier Deschamps, c'est bizarre. Bon, on s'égare. Disons que t'as un premier centre d'intérêt qui va être le jeu en lui-même, un deuxième centre d'intérêt qui va être un club, un joueur, donc tu es fan quelque part, et un troisième centre d'intérêt, ça va être toute l'ambiance, la convivialité que tu peux trouver dans un bar, que tu peux trouver en regardant la télé avec tes potes, ou que tu peux retrouver au stade. Et selon les gens, tu vas retrouver des cultures différentes. T'as des gens qui vont être centrés vraiment spectateurs, puristes, comme tu disais. T'en as d'autres qui vont être supporters inconditionnels, attachés à un club. Et pour ceux pour lesquels l'ambiance est super importante, on en reparlera un peu à travers les ultras, tu vas avoir une passion qui est double. D'un côté, mon club, et aussi le plaisir que j'ai à être dans un groupe ou à partager l'ambiance. Donc t'as en fait les passions pour le football sont très diverses, y compris parmi ceux, même si on se centre sur ceux qui vont au stade, t'as des passions vachement différentes que tu retrouves. Bon, tu vois des clivages entre tribunes, mais même à l'intérieur d'une même tribune, quand tu discutes avec les gens qui sont autour de toi, t'en as qui sont vraiment centrés sur le jeu et qui te parlent que de ça. D'autres, leur club joue comme super mal, tant qu'ils gagnent ça va. Et puis t'en as d'autres, s'il n'y a pas eu de l'ambiance le soir même, ils sont déprimés. Donc t'as des passions qui sont très différentes. Et pour revenir à ta question initiale que j'ai un peu négligée, La France, effectivement, historiquement, a plus une culture spectateur, une culture où on apprécie le jeu et quand ça joue bien, on va s'enflammer. Petit à petit, la culture supporter s'est ancrée en France et je pense que l'un des problèmes de la France, c'est qu'elle se rend pas compte qu'aujourd'hui, dans certains de ses stades, il y a de l'ambiance. Parce qu'on tout souvent dit l'Angleterre, on dit l'Angleterre, bon, tu vas dans certains stades anglais, aujourd'hui tu pleures.
L'Angleterre, c'est très bien. Tu sais que moi, je me souviens m'être fait la même réflexion, par exemple, que tu vas à Munich en Allemagne, quand on était allé, c'est impressionnant parce que tout le monde dit l'Allemagne. Alors, tu vas à Francfort. Non, je reconnais qu'il y a certains endroits.
Francfort, c'était, ils ont assuré.
Ah non, Clément et moi, on y était à Francfort il y a un mois. On a pris le son.
Par contre, quand j'étais à Munich.
Oui, mais Munich, c'est un cas particulier en Allemagne. C'est un cas
particulier. Oui, parce que c'est la ville un peu bourgeoise.
Moi, je me suis retrouvé à l'extérieur avec des Munichois. C'était à Zurich où il y avait.
Non, mais à l'extérieur peut-être, mais chez eux, tu peux dire que chez eux, on n'en parlait que nous. On va peut-être laisser Nicolas juste revenir sur ce que tu voulais dire.
Non, mais je pense que la France ne se rend pas compte qu'il y a des stades où il y a une vraie ambiance. Le Parc des Princes, avant, quand ça, c'est un stade qui résonne énormément. On a parlé déjà du Vélodrome, qui était un stade. Les grandes heures du Vélodrome, c'était vraiment quelque chose. Geoffroy Guichard, c'est un stade qui a une âme. Bollard. Même s'il était moins pourri, s'il y avait moins de courant d'air, la Beaujoire, quand c'est rempli. Oui. Quand ils chantent, quand ils veulent chanter, il y a plein d'endroits où il y a de l'ambiance. Mais
Et alors
Bordeaux, ben on est légèrement desservi par un stade qui est superbe, qui est l'un des plus beaux stades de France, mais qui a été assassiné par certaines rénovations, quoi. Notamment la dernière rénovation de la Coupe du Monde où le virage est invraisemblable. C'est-à-dire encore la rénovation de 87 quand on fait le virage sud en fait et le virage nord quand on casse les pesages, etc. Ça ressemble encore à quelque chose, mais t'as pas de résonance avec le toit. Mais la dernière rénovation, tu vois rien. Pour les tifos, c'est pourri. Ouais. Le stade casse énormément l'ambiance parce que tu vois bien quand vous montez là maintenant, quand il n'y a pas suffisamment de monde au virage sud, quand vous montez sous le toit.
Ouais, c'est une réflexion qu'on se fait quand on chante.
Ça résonne beaucoup plus. Ça change tout. Non, Bordeaux, le stade est. Enfin, moi, c'est un stade que j'adore. Le stade est très beau. Mais après, c'est un stade qui est complètement inadapté et sur lequel je pense que ça joue. Hein. Je prends un exemple récent. Les journalistes se sont aperçus avec la création du nouveau stade de Nice qu'il y a de l'ambiance à Nice.
Il y en avait déjà besoin de ça pour s'en apercevoir.
Non, mais Nice, avant t'allais au Ré, c'est un stade qui ressemblait à rien, mais dans lequel t'avais une âme, mais où les champs se perdaient. Là, tu leur mets un toit, les mecs. Voilà. Donc, le stade joue énormément dans l'ambiance. Quand on se flagelle sur Bordeaux, il n'y a pas d'ambiance. Je pense qu'on est là aussi. Parfois, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'on est un peu dur. Il faut voir aussi que le stade te facilite pas la possibilité de chanter.
Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup.
Des gens du moins de la pelouse.
Chez les ultramarines, c'est vrai que c'est des arguments que t'entends beaucoup, que ce soit pour les tifos, comme tu dis tout à l'heure, ou la pente est trop basse. C'est vrai que cette fameuse histoire du toit.
C'est pas une tribune qui est favorable, parce que mine de rien, Bordeaux, c'est quand même un des bastions du mouvement ultra en France, ce qui n'est pas gagné, étant donné ce qu'est la ville, etc. Et ils sont desservis, hein, parce que, franchement, moi, si tu regardes les grands groupes ultra en France, t'en as pas 50 000. Bordeaux en fait incontestablement partie. Et pourtant, l'ambiance n'est pas. Et pas au niveau d'autres clubs qui ont la chance d'avoir un stade qui résonne plus.
Alors, on sait un peu, on a tendance toujours à aller vers Bordeaux. On va y revenir tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. C'est prévu, on va en parler justement du supporterisme en Gironde. À Bordeaux, on va vraiment, appuyer dessus. Mais déjà, on voudrait toujours en revenir un peu sur
Libourne,
ce côté.
Libourne,
il y avait les supra-libournais à une époque. Et, hein,
bon, c'était pas non plus. Que je salue. Bon, ça.
Je salue l'ami Stan, hein, voilà, qui doit peut-être écouter.
Aussi.
Donc, j'aimerais moi juste qu'on revienne donc encore une fois donc sur la France par rapport justement à ce qu'on entend, comme tu le disais. Donc voilà, les supporters français qui ont pas forcément bonne réputation d'un point de vue justement ambiance, alors que tu nous dis qu'ils sont loin d'être si ridicules que ça. Je voulais te demander justement, est-ce que par rapport donc toujours à la France et à ses supporters, le fait que les supporters français, on va revenir d'un contexte un peu plus général, supportent plusieurs clubs et souvent d'ailleurs des clubs étrangers, avec l'arrivée de Canal+ notamment, qui a commencé à vanter un peu justement certains clubs
avec l'équipe du dimanche,
exactement,
une émission qui a pas forcément d'équivalent dans d'autres pays européens.
Est-ce que ça finalement c'est pas quelque chose de préjudiciable pour notre tribune en France, c'est-à-dire, et pour le mouvement supporter, c'est-à-dire que les gens ont peut-être un côté un peu différent. Quand tu vas en Angleterre, les gens parlent que du football anglais. En Espagne, c'est globalement pareil. Comment est-ce que justement, est-ce que ça a vraiment un impact négatif, le fait que les supporters français à faire le
je pense qu'il faut voir à partir de quand on s'est intéressé notamment par, il y a l'exemple d'Arsenal qui est un exemple frappant, c'est lié aussi au déclin du foot français, enfin des clubs français après 98, c'est-à-dire que
les joueurs français
les joueurs vont là-bas. Pourquoi les Anglais continuent à s'intéresser au championnat anglais? Parce qu'il faudrait être maso pour s'intéresser au championnat français.
Les joueurs
anglais restent en Angleterre aussi.
Et on a quand même souvent tendance à dire que, et c'est vrai, quand un Anglais, vient au monde, il est destiné presque à supporter le club de sa ville.
Oui, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des traditions familiales qui peuvent commencer à se créer en France à partir du moment où les gens commencent à aller régulièrement au stade. Il y a une culture supporter qui s'ancre. C'est des choses que tu vois. T'as des transmissions aussi. Mais c'est vrai que c'est des transmissions moins anciennes que celles que tu peux retrouver en Italie, en Espagne, où tu lègues ta carte de socios, ou en Angleterre. Oui. Par rapport à la question sur pourquoi les Français s'intéressent à l'étranger, pour des raisons très simples. C'est-à-dire que les Français ont commencé à s'intéresser à l'étranger quand les télés ont montrer d'autres championnats, et quand le championnat français a décliné d'un pas relatif par rapport aux autres championnats. Cet intérêt qu'on va retrouver pour des grands clubs étrangers, tu le retrouves à l'échelle mondiale aujourd'hui. On parlait hors antenne avant de Ludovic Lestrelin, qui est un sociologue qui a travaillé sur les supporters à distance. Donc des gens qui sont supporters, lui il a travaillé sur les supporters de Marseille qui habitent Rouen au départ, mais après il s'est intéressé à d'autres gens. Tu te rends compte qu'en Asie des mecs vont se passionner pour Manchester United ou Liverpool, des trucs qui riment à rien pour eux. C'est parce que t'as pas de championnat local, et l'essor des télés qui rend accessible n'importe quel match va faire que tu te passionnes pour des grands clubs. Je pense pas que la France en soit complètement là non plus. Y a quand même un intérêt quand tu regardes les matchs, les audiences sont quand même supérieures pour un match championnat français que pour un match championnat anglais, quel que soit le match championnat français sur Canal+. Donc il faut pas non plus qu'on caricature les choses, mais c'est vrai qu'à partir du moment où le championnat français est moins performant, les gens vont avoir envie de regarder le grand championnat qui va être le championnat anglais notamment en ce moment. D'autant plus qu'il y a des joueurs français et que les télés françaises les montrent, quoi. Je pense pas qu'il faille aller chercher non plus beaucoup plus loin.
Justement, la ce que je considère comme une surmédiatisation du foot, et notamment par Canal, plus souvent du foot anglais, où je suis désolé, c'est pas pour faire je regarde un Wigan.
Tu regardes pas.
Ça me saoule. On se fout de la gueule en France des matchs, là. Ce week-end, il y avait un Saint-Étienne-Lorient, ça a fini à 3-2, c'était très bien, et c'était pas Arsenal, c'était pas Chelsea. Est-ce que le fait justement super Arsenal, ils ont gagné 3-1, vous en avez ce week-end contre qui? Oui,
Norwich,
génial, 4-1, magnifique. Non, je suis désolé, c'est chiant. Enfin, est-ce que ça justement c'est pas rentrer dans la tête des gens de toujours leur montrer que vous voyez,
est-ce que Canal Plus finalement a pas tué quelque part
toujours valoriser, au lieu de valoriser ce qu'on a, nous valoriser ce qu'il y a autour.
Je pense qu'on a une tendance, c'est ce qu'on dit un peu depuis le début de l'émission, à dévaloriser un peu tout ce qu'on fait. On a dévalorisé notre football à certaines périodes, ensuite on a dévalorisé nos publics, etc. Et là c'est sûr que, enfin bon, moi personnellement je me sens pas du tout en phase avec ça. Je vois pas les matchs du championnat anglais ou du championnat allemand ou éventuellement du championnat italien sur certains matchs exceptionnels, mais non, moi je préfère regarder un match français. Puis à vrai dire, en fait, je regarde que Bordeaux.
On est d'accord là aussi. Emeric, on va peut-être commencer justement donc la partie supporter.
Ouais, on va commencer vraiment la partie.
Je crois que le contexte a bien été déblayé globalement.
Oui, on a fait ce qu'on voulait faire. On y a passé le temps qu'on voulait. Alors, vraiment à la partie supporter. La première question, elle est à la fois toute simple et au final assez complexe.
C'est tordu.
C'est tout simplement, Seb, Clément, moi et d'autres auditeurs qu'on supporte Bordeaux ou même d'autres clubs, parce qu'au final, quand on a fait la pub pour cette émission, on a bien précisé que c'était une émission qui parlait pas forcément des Girondins de Bordeaux, et je pense qu'il y a des supporters d'autres clubs qui doivent nous écouter. D'où ça vient au final? Parce que nous, on est, comment, à la base, comment le supporterisme organisé s'est répandu en France, et quelles ont été les premières manifestations et les origines principal?
En fait, ça se développe notamment dans le nord de la France à partir des années 1910-1920.
Ah ouais, c'est si vieux que ça.
Ouais, en fait, mais ça ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment.
Il y a des rapports notamment entre la France et l'Angleterre, si je dis pas de bêtises.
Non, pas forcément. Il peut y en avoir, mais t'en as aussi. Si t'en as, je veux pas te contredire.
Alors, je sais qu'il y a des supporters avec qui j'avais discuté.
Il y a des rapports aussi avec la Belgique. En gros, il y a aussi des rapports avec le rôle que, par exemple, le patronat va jouer sur Lens avec une constitution à favoriser les réseaux de sociabilité, parce qu'en fait au départ qu'est-ce que c'est les supporters, c'est les amis du club, et donc le but du jeu c'est de créer un réseau de sociabilité entre les différentes personnes qui aiment le club, mais aussi les joueurs et les dirigeants. C'est en gros je fais partie de la famille même si je joue pas, et donc t'as toute une tradition du supporterisme qui s'est développée comme ça avec des grosses associations dont l'objectif est complètement décalé par rapport aux associations ultra qui sont aujourd'hui dominantes, dont l'objectif c'est avant tout d'aider le club au quotidien
et d'en être indépendant, surtout parce que ce que tu nous dis à la base là, moi je m'interprète comme une certaine dépendance, c'est le club
tous qui... ne sont pas, enfin il y a quand même
la logique, si on reprend pour faire vraiment comprendre la logique d'histoire, parce que cette idée aujourd'hui de supporter d'association de supporters indépendants, justement c'est pas du tout ça à la base. À l'origine c'est le supporter fait partie du club, il est associé, le nom des supporters de Saint-Etienne, même s'ils apparaissent dans les années 70, les associés supporters de Saint-Etienne, c'est révélateur de toute cette période des années 20 aux années 70 où le supporter est là pour être associé au club, donc vraiment dans une idée d'une association officielle, et il aide le club faisant des cotisations pour acheter au club des maillots, des équipements pour les jeunes, etc. C'est vraiment je fais partie de la communauté, je crée des réseaux de sociabilité, et à la limite je mets de l'ambiance au stade, ça fait pas partie de... c'est pas l'objectif des supporters, ça va être d'aider en dépannant à la buvette, en étant bénévole à la buvette, en étant
amateur, quoi. Voilà ce que je veux dire, surtout à cette époque là les clubs ne sont pas professionnels, et donc il y a un vrai besoin que les supporters donnent l'argent pour aider le club à vivre, tout simplement.
Ouais, et puis t'as l'envie d'une proximité, le supporter il gagne en fait sa proximité, je vois le joueur à l'entraînement, je fais des soirées avec lui, il y a un vrai système social de proximité qui marche très bien à Lens avec tout le système de café, les sections, etc.
C'est que à Lens ou ça se...
Non, tu le retrouves à Lille aussi.
C'est vraiment le nord par contre de la France.
Ouais, mais après tu l'as retrouvé à Saint-Etienne, tu l'as retrouvé à Nantes aussi, il y a plein de villes, à Metz, il y a plein de villes où comme ça des réseaux se sont constitués. C'est des choses qu'on connaît bien sur l'Italie, c'est des trucs qui se constituent en Italie dans les années 50-60 autour des... si on prend le Milan Club de telle ville, le Milan Club de tel quartier, puis ensuite t'as le réseau qui gère l'ensemble des Milan Clubs. L'association officielle traditionnelle, c'est ça. On regroupe les gens d'un café, d'une ville, d'un quartier, tous autour du club. On fait réseau entre nous, réseau avec les autres clubs ailleurs. Et c'est quelque chose qu'on connaît très peu à Bordeaux, parce que finalement la dernière grosse association de ce type-là a disparu dans les années 80 et a jamais eu une ampleur démente. Et c'est vrai que à Bordeaux,
elle s'appelle comment peut-être juste
l'association de supporters des Girondins de Bordeaux, je me souviens plus, enfin un truc
assez simple,
un nom classique,
l'amicale des supporters,
c'est pas l'amicale, c'était
les amis des gens,
c'est ça. Et en fait par rapport au modèle de supporterisme, t'as des ruptures historiques et t'as des ruptures géographiques aussi. Au niveau des ruptures, si on reste centré sur la France pour bien comprendre ça, la grosse rupture qu'on retrouve aujourd'hui encore, c'est les associations officielles d'un côté liées au club, les associations autonomes, notamment les associations ultra, qui elles vont insister sur le fait que ils sont des acteurs à part entière avec une certaine indépendance. Et ça, cette coupure, elle se fait au moment des années 80, et tu retrouves plein de clubs aujourd'hui où prenons Nantes, t'as l'association Allez Nantes Canaries, le nom est assez parlant qui est lié au club, et à côté t'as la Brigade Loire, le groupe ultra beaucoup plus autonome, en conflit avec le club. Tu as à Saint-Etienne, il y a les associés supporters, associations traditionnelles très classiques avec des réseaux sur toute la France, et à côté au niveau ultra t'as Magic Fans et Green and Shops. Donc c'est des mentalités différentes et des formes d'organisation différentes. Et moi un truc en gros, quand j'ai commencé à travailler sur le supportage, je travaillais à Bordeaux avec ce tropisme ultra, parce qu'à Bordeaux t'avais vraiment que ça. Et quand tu vas dans d'autres villes, tu t'aperçois que dans d'autres villes il y a d'autres formes de supporterisme, et notamment des trucs plus traditionnels, plus officiels qu'on connaît assez peu à Bordeaux. Donc en France, t'as vraiment ces deux clivages-là, si on met les hooligans à part, les associations officielles d'un côté, les associations autonomes, et après t'as d'autres modèles à l'étranger qu'on connaît moins en France. Bon, c'est le modèle que tout le monde connaît, par exemple des socios espagnols, où là les supporters sont adhérents du club, cotisent, votent tous les 4-5 ans selon le club pour élire les présidents. Donc ça, c'est des choses qui existent pas trop en France. Et autre chose qui existe pas trop en France, c'est des modèles qui sont développés notamment en Angleterre partir des années 90, d'associations d'abord indépendantes, un peu comme des associations de consommateurs qui vont défendre les droits des supporters. Mmh. Et ensuite, ce qui s'est développé aussi en Angleterre, c'est toute la mouvance supporter direct, donc actionnariat populaire, c'est une logique sociale, c'est un peu différente, c'est-à-dire que on se regroupe pour pouvoir posséder une certaine part du club et avoir son mot à dire. Et ça, c'est des choses qui commencent à monter à l'échelle européenne et ça commence à il y a quelques pistes en France. Bon, là, je sais qu'il y a des gens qui ont lancé un truc un peu social.
On en parlera justement dans la suite de l'émission. On a des questions spéciales là-dessus.
Il y a Alain Nantes à Nantes qui a monté un gros truc d'actionnariat populaire. Donc, il y a des formes qui peuvent se diversifier d'associations et peut-être des formes nouvelles qui vont apparaître qui seront ni dans l'association traditionnelle ni dans l'association autonome type Ultra Nantes.
Alors, écoute, moi j'ai deux petites questions pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Tu disais tout à l'heure que, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous frappe un petit peu, que donc ce genre de mouvement finalement supporter naissait surtout né dans le nord de la France. Il y a une chose qu'on voit dans le nord et qu'on voit pas tellement ailleurs, c'est justement les groupes de supporters vraiment, alors pour le coup un peu plus actifs peut-être que ce que tu nous as décrit, qui sont en tribune latérale. Je pense à Lens, je pense à Valenciennes. Est-ce que concrètement c'est un rapport ou le placement des gens en tribune, comment est-ce qu'on peut expliquer ça aussi?
Oui, alors là, tel quel maintenant, je me souviens plus pourquoi, mais effectivement, il y a des raisons particulières sur le fait que Lens et Valenciennes, ils avaient tribune sur les côtés. Je me souviens plus pourquoi, c'est lié à ce qu'on disait sur cette idée que le club cherche à vraiment contrôler les supporters, aussi parce que à l'époque, voilà, c'est occuper les ouvriers les jours de congé pour faire en sorte qu'ils fassent pas des congés. Il y a un vrai rôle social, il y a un vrai paternalisme avec ce que ça peut avoir de positif et aussi à certains moments un peu de négatif de contrôle du public. Mais il y a l'idée que les supporters font partie du club et on retrouve dans ces associations officielles qui sont créées à cette période-là aussi la volonté d'animer le stade qui s'est progressivement fait jour. Et c'est pour ça que par exemple si on regarde l'histoire du mouvement ultra sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais des villes où il a eu du mal à s'implanter, ça va être Lens ou même Saint-Etienne, un peu moins à Saint-Etienne, mais avant il existait des formes de supporterisme assez installées et où les types avaient commencé à mettre de l'ambiance. Au début, tu mets des ultras à Lens, personne ne comprend, il n'y en a pas besoin, il y a déjà de l'ambiance. Donc ils ont galéré les mecs. Quand tu arrives à Bordeaux ou même à Marseille où il n'y avait pas tellement de trucs, tu dis je vais mettre de l'ambiance, ben oui, vas-y mon grand, il n'y a personne qui le fait. Donc enfin en gros, quand le virage sud se constitue, il n'y a rien, c'est facile de construire sur rien.
Quand t'es prison d'abord.
Ouais, et le mouvement ultra a bien marché en France parce que dans beaucoup de stades, il n'y avait rien. Et donc quand les mecs arrivent, on va faire quelque chose, on va foutre de l'ambiance.
Il n'y avait rien de structuré quoi.
Non, pire, dans certains endroits, il n'y avait rien. Et c'est sûr que là où c'est structuré, ça a été plus difficile d'implanter le mouvement ultra. Si on veut dire qu'il n'y a rien, par exemple, si on prend Bordeaux, puis c'est ce que les auditeurs auront le plus de chances de connaître, quand le mouvement ultra va se constituer au milieu des années 80 à Bordeaux, il y a presque une décennie d'émergence progressive du virage sud, de regroupement autour du panneau d'affichage, ce qui fait que dès le début des années 80, t'as déjà un début de COP à Bordeaux qui ressemble à quelque chose.
Alors, et un deuxième nom, un gros mot, entre guillemets, que tu as prononcé tout à l'heure, c'est hooligan.
Ouais.
J'aimerais juste que tu me dises un petit peu en France, rapidement. Alors, tout le monde connaît le hooliganisme à l'anglaise. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vais demander d'être assez bref, parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de majeur en France, on va être franc. Comment est-ce que, justement, tu peux nous parler un petit peu de ce hooliganisme à la française?
Alors, être bref va être difficile, parce que c'est un sujet extrêmement important. Parce que finalement, le problème du mot hooligan, c'est qu'on l'entend dans des sens complètement différents et que les gens savent pas de quoi on parle. Quand on parle de hooligan, c'est un mot qui est apparu dans le langage commun après le drame du Heysel en 85, donc après le match Juventus-Liverpool à Bruxelles. 39 morts en direct à la télévision, donc quelque chose qui a très fortement marqué l'opinion européenne, et qui a été associé aux supporters violents, auxquels on a donné le nom de hooligan. Donc aujourd'hui, si tu prends la presse, le mot hooligan va désigner tous les débordements dans les stades. Or, le problème, c'est que cette étiquette-là va amalgamer des faits complètement différents. C'est-à-dire que quand tu prends les statistiques du hooliganisme, t'as les fumigènes, t'as l'ivresse, t'as la consommation de stupéfiants, t'as la violence. Donc,
des choses qui sont très loin du hooliganisme de base à l'anglaise.
Des choses qui sont très loin du hooliganisme de base à l'anglaise. Et c'est pour ça que on est pas mal de sociologues à essayer de faire la distinction entre ce que les gens entendent par hooliganisme avec cette étiquette très globale qui va amalgamer tout et rien, et ce qu'on peut considérer comme des groupes qui se définissent eux-mêmes comme hooligans et qui ont une logique extrêmement particulière. C'est-à-dire qui vont être centrés sur une logique de bande et une recherche de la violence. C'est comme ça que ça s'est constitué en Angleterre, c'est comme ça que ça s'est un peu développé en France. Et donc, ce qu'on essaye de dire, on est plusieurs sociologues à essayer de dire ça en France, c'est de dire que l'étiquette hooliganisme, on va essayer de l'oublier parce qu'elle te fait faire des confusions entre des choses très différentes. Donc, si on raisonne en termes de supporters violents, il y a des supporters violents en France, les ultras peuvent être des supporters violents à certains moments, mais il y a quand même une différence de mode de comportement, d'organisation entre ultras et hooligans. Et donc, moi, j'ai tendance, comme d'autres, à réserver le qualificatif de hooligan à des bandes informelles, donc pas des associations, qui sont centrées sur la violence et dont c'est l'objectif principal. Ça ne veut pas dire que... En gros, l'idée, c'est que parmi les supporters violents, il y a différentes formes de supporters violents. Il y a les hooligans, il y a les ultras, etc., qui n'ont pas le même rapport à la violence. Et donc, c'est quelque chose qui paraît être, qui me paraît important à distinguer. Et la grosse difficulté dans le débat, y compris dans les médias, c'est qu'on n'arrête pas d'osciller sur le sens du mot hooligan et aussi sur le sens du mot ultra. Si vous regardez un peu comment la presse va traiter ces deux termes, c'est vachement intéressant. À certains moments, ultra est considéré comme opposé de hooligan, donc des supporters un peu différents qui peuvent déborder, mais qui sont avant tout là pour l'équipe par rapport aux hooligans qui sont violents. Et parfois, c'est exactement le même terme. Et je comprends pas. Enfin, tu vois, le type qui s'intéresse pas au foot, il peut rien y comprendre parce que parfois on lui dit ultra, c'est synonyme de hooligan. Il y avait un reportage qui était fantastique. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir ça.
C'était celui
d'Enquête Exclusive qui est un reportage magnifique.
Ah oui, je l'ai vu en replay, il est magnifique.
On les appelle, c'est la phrase, elle est géniale.
Les hooligans des stades, on les appelle les ultras.
Voilà, ça fait très 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 mal.
Tu te mets à la place du grand public qui regarde ça. Donc le type, il part d'un Saint-Étienne-Lyon. Il se retrouve dans un camp de paramilitaires nazis en Ukraine, quoi. Et alors, en plus, Saint-Étienne-Lyon, c'est un truc fantastique. C'est-à-dire qu'effectivement, ce soir-là, t'as quand même des ultras stéphanois qui vont attaquer le convoi des supporters lyonnais. Et sur l'émission de M6, ils te montrent l'arrivée du bus des joueurs. Et ils te montrent les hooligans stéphanois. Enfin, c'est le truc. Et tu vois des gamins qui font des doigts, quoi.
C'est ça.
Et là, pour le grand public, t'as une confusion absolue. C'est-à-dire que le terme hooligan ne veut plus rien dire. Donc nous, notre travail en tant que sociologue, c'est d'essayer de clarifier les choses. Quels sont les types d'incidents? Quels sont les types d'acteurs? Et c'est pour ça que le terme hooligan, c'est dur de passer rapidement dessus. Moi, je vais en parler ici, sous l'acception que je viens de définir. C'est-à-dire qu'il y a des violences. Il y a différents types de débordements sur lesquels on reviendra. Mais les hooligans, pour moi, c'est vraiment des groupes qui sont centrés sur la recherche de la violence.
Politisés souvent.
Politisés pas forcément. C'est vrai qu'historiquement, il y a eu, notamment en Angleterre dans les années 80, un fort lien entre les hooligans et le National Front anglais, qui a donné une certaine image, qui a ensuite fait des émules ailleurs. Mais vous avez des groupes de hooligans qui sont pas du tout d'extrême droite. Voir des groupes de hooligans antifascistes.
Enfin, juste là pour se taper dessus.
Voilà, c'est vraiment centré sur la violence. Et du coup, quand on dit ça, certains vont dire « Ah ouais, mais les ultras peuvent être violents aussi ». Je dis pas le contraire. Je dis juste que c'est pas la même logique de passage à l'acte, pas le même rapport à la violence, etc.
C'est pas le même but à la base.
Les ultras, il y a une formation légale, c'est une association de loi 1900. Alors souvent, le hooliganisme, c'est beaucoup moins structuré.
Ouais,
c'est des groupuscules, une espèce de nébuleuse. Il y a pas de statut, il y a pas de leader identifié.
Il y a rien du tout.
Au-delà de ça,
un coup de fil et puis voilà.
Au-delà de ça, c'est dans un cas, tu recherches vraiment la violence et la bagarre. Dans l'autre cas, il y a quand même un vrai fond de supporterisme qui est présent, et la violence finalement est, j'ai envie de dire, même si elle est présente, on va pas se mentir, est marginale quand même par rapport à ça.
Oui, alors ce qui est très paradoxal chez les ultras, je pense que c'est important d'en parler maintenant pour clarifier un peu les trucs.
Un peu,
ouais, c'est que les ultras, pour eux, la violence, elle est à la fois marginale et centrale. Ça paraît contradictoire de dire ça, mais en même temps, c'est juste. C'est-à-dire que tu regardes les groupes ultras, la violence est marginale parce que finalement, ça arrive pas souvent et ça concerne pas grand monde. Il faut être honnête, enfin, tu comptes pas les...
Nous, autour de la table, Seb, Clément et moi, on n'est pas violents, bon, moi je suis pas encore ultra, mais bon, on est dedans quand même. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas concerné, mais on en parle souvent. C'est quelque chose qui est souvent au centre des conversations.
Et c'est quelque chose qui va être le moyen ultime pour trancher certains différends. Donc c'est quelque chose que les groupes ultra arrivent pas à mettre complètement de côté.
Parce qu'il y a une notion aussi un peu de fantasme à l'intérieur.
Oui, mais t'as aussi quand même une idée. La logique ultra, c'est quand même une logique aussi du rapport de force entre groupes, et donc l'idée de violence est jamais complètement loin. Donc c'est à la fois quelque chose qui est pas fréquent, qui est pas l'unique objectif, mais c'est quelque chose qui est présent, présent dans la logique. Et donc faire comprendre ces logiques-là entre ultra et hooligan, c'est assez important, et faire comprendre aussi aux gens quand ils lisent des choses sur les hooligans, d'avoir cette distance par rapport à qu'est-ce qu'on entend par hooligan, c'est super important, parce qu'en fait il y a une image tellement négative suite à des drames meurtriers qu'on suppose que les hooligans sont des types affreux. Et si on prend le regard de ce qui se passe au PSG actuellement, il se passe des choses extrêmement fortes en termes de contrôle par le PSG, plus qu'aux limites de la légalité, de son public. C'est juste justifiée par le fait qu'il y a des hooligans. Et donc du coup, quand tu brandis cette étiquette de hooligan, tu masques le fait que en fait le PSG s'en prend en partie effectivement à des supporters violents, mais aussi à des types qui ont le seul tort de pas être d'accord avec la politique actuelle. Mais comme ils sont désignés sous cette image d'individus qui peuvent être violents, et comme dans les médias, on va le voir sur Anderlecht PSG. Sur Anderlecht PSG, il y a des vrais hooligans parisiens qui vont y aller pour se taper. Et il y en a d'autres supporters parisiens qui vont aller à Anderlecht pour voir le match, mais comme ils sont pas sur la même ligne du club, ils vont être en dehors du déplacement officiel. Ils vont avoir des problèmes et les médias vont dire tous c'est des hooligans, que ce soit les types qui sont venus pour se taper ou les types qui sont venus en marge.
Ils ont prévenu, hein, il y a eu un communiqué.
Oui, le PSG fans, ça fait un communiqué ce matin.
Ils ont prévenu que c'est clairement lié entre les lignes, c'est clairement expliqué que ça peut dégénérer.
Le sens de leur communiqué est de dire, en fait, il va y avoir des supporters parisiens hooligans qui vont aller à Bruxelles pour se taper avec les mecs d'en face. Nous, on va à Bruxelles pour voir le match, mais comme on s'entend pas avec notre club, on va pas y aller dans le déplacement officiel. Ça va nous retomber sur la gueule.
On va rester dehors
et on va nous dire vous êtes les hooligans, parce que d'ailleurs il y a eu des incidents à côté, alors qu'ils y sont pour rien. Et donc c'est ça la grosse difficulté à faire comprendre au grand public, c'est qu'actuellement, pardon pour le bruit avec la chaise, sur Paris, on peut pas dire qu'il y a plus de problèmes de violence, parce que si on laisse revenir certains, les problèmes de violence peuvent revenir. Mais il y a une incapacité du club à vouloir comprendre, parce qu'ils ont compris très bien, mais comprendre qu'il y a d'autres supporters qui sont pas spécialement violents et qui ont juste une manière de percevoir le football différente de celle des dirigeants. Et donc l'enjeu, quand on parle de hooliganisme, c'est de comprendre de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'étiquette globale qui va amalgamer le type qui fume un joint, comme on disait, ou qui gueule contre son président,
qui fait un acte répréhensible, on va dire,
de l'incivilité, comme on dit.
Alors on va quitter donc le hooliganisme, on va rentrer donc dans le monde ultra.
C'est pas la même chose, donc voilà, j'espère que vous avez compris.
On va te demander déjà, donc, sur la France, qu'est-ce qui différencie réellement donc le supporterisme qu'on va appeler un peu non ultra, qui peut être aussi des fois organisé, on l'a vu, et justement donc ces groupes ultra. C'est quoi la base qui la différence?
Ben à la base, la grande différence, et ça va être une révélation totale pour les auditeurs, c'est le grand scoop de la soirée. Un ultra, c'est un mec qui veut être ultra. Voilà, point barre. Et en fait, blague à part, c'est ça. C'est-à-dire
qu'à la base, c'est juste un mot, à la base.
Dès qu'on parle, enfin moi j'ai passé des soirées dans des locaux de groupes de supporters où les types se torturaient l'esprit en savoir mais au fond qu'est-ce que c'est vraiment l'essence de l'ultra et qu'est-ce qu'on est, etc. Moi-même,
les
grandes questions existentielles. En fait, être ultra, c'est vouloir rentrer dans une compétition et dans des manières de jouer son rôle de supporter qui est différente. Et si l'on comprend comme ça, tu vas comprendre que le mouvement ultra s'est construit progressivement par des groupes qui ont cherché à faire différemment, d'abord en Italie et puis ensuite à l'échelle de l'Europe, que les supporters traditionnels qu'on a évoqué, des associations liées au club, sociabilité. Le mouvement ultra, il naît de quoi? Il naît de l'idée, nous on veut foutre l'ambiance au stade, on est jeune et on veut pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Et donc si on veut gueuler contre les joueurs ou contre les dirigeants, on gueulera contre les joueurs et les dirigeants. Et quand c'est arrivé en France dans les années 80, ils ont reproduit
les origines et comment est-ce qu'ils s'implantent en France, quel groupe peut-être?
Si on prend les origines, ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement ultra, il naît en Italie fin des années 60, début des années 70, période d'agitation de la jeunesse, période où la jeunesse se constitue en classe d'âge autonome et cherche dans les stades italiens à affirmer sa présence et donc se décaler un peu des associations traditionnelles qui s'étaient très fortement constitué dans les années 60, avec l'idée on est des groupes de jeunes et on soutient l'équipe activement, on a notre tribune à nous, parce qu'avant, tu étais un peu réparti partout dans le stade, là, on se fait notre tribune, on est un groupe de jeunes, venus de tous les quartiers, de toutes les villes, de la botte, supporters du Milan par exemple, et nous on encourage l'équipe et on le fait de manière spectaculaire, avec des banderoles, puis de plus en plus des animations élaborées, on se déplace de plus en plus souvent jusqu'à aller se déplacer tout le temps, et donc ce mouvement se développe dans toute l'Italie dans les années 70. Et au début des années 80, ça, pour nos plus jeunes auditeurs, ça va paraître incroyable, mais l'Italie est le principal championnat à l'échelle européenne. En plus, en France, il y a Platini qui joue. Et c'est le grand football. En plus, ensuite, il va y avoir l'Angleterre qui va être exclue des coupes européennes. Après le drame du Wesel. Donc l'Italie est vraiment le championnat majeur et va faire tout un ensemble d'émules. Et donc en France, ben comment ça se constitue? Ça se constitue, enfin comment le mouvement ultra gagne la France? Par des clubs qui rencontrent des clubs italiens en Coupe d'Europe ou qui les voient à la télé ou qui les voient dans le sud. Ben si tu prends, c'est très clair.
C'est la naissance du mouvement ultra Bordeaux.
Ouais, Marseille, c'est 84, le commando ultra à Marseille, qui naît de gens d'origine italienne qui veulent reproduire ce qu'ils voyaient dans leur club de cœur et d'origine. Nice 85 parce que proximité avec l'Italie. Paris Saint-Germain, ils rencontrent la Juventus en Coupe d'Europe. C'est là aussi que vient les Blue and Boys, le premier groupe ultra à Paris. Et puis la naissance des ultramarines, elle est très, très largement liée au déplacement à Turin. Où, pour en avoir parlé à ceux qui étaient... Bon, moi j'étais au match retour, mais j'étais pas au match aller. Mais pour ceux qui y sont allés, ça a été un moment terriblement marquant.
Et en fait,
La banderole ultramarine arrive avant la création du groupe. Elle arrive en 86 avec l'idée on va reproduire ce qu'on a vu en Italie, on cherche à faire pareil, c'est fantastique. Et c'est comme ça que se crée le mouvement ultra. Ouais. Donc autour de...
Je vais peut-être te poser une colle, mais le nom ultramarine, tu sais d'où ça vient? Peut-être une anecdote ou non?
Dans mon souvenir, c'est l'idée que t'avais beaucoup de groupes qui s'appelaient ultra et la couleur de leur club. Donc par exemple au Torino, le club qui est opposé à la Juve à Turin, c'est les Ultras Granata, le principal groupe. Et tu retrouves ça dans plein d'endroits, et donc ultramarine, en plus ça sonnait bien, voilà. Il y a eu tout un débat au début des ultramarines sur est-ce qu'il y a un S entre ultra et marine, et puis finalement ça c'est... Non mais c'est vrai, sans blague, c'est vrai, t'avais plusieurs banderoles comme ça, et donc finalement c'est le nom ultramarine qui s'est imposé, et c'est toute cette effervescence dans les années 80 de jeunes supporters français, au moment où le foot se développe un peu, Canal Plus arrive, il est plus médiatisé, qui veulent faire comme les Italiens, et qui, comme on le disait tout à l'heure, peuvent d'autant plus le faire. C'est d'autant mieux accepté qu'il n'y a rien d'autre. Par contre, la grosse difficulté quand t'arrives ultra dans les années 80, dans la deuxième partie des années 80, c'est que t'as eu le Ezel avant. Et donc, pendant quelques années, tout le challenge des ultras était de faire comprendre. Et c'est pour ça que ce que je disais au départ.
Avec ton cas personnel, oui.
Ouais,
pour un fou quand on va au stade.
Ouais, mais même au-delà de ça, quand on dit être ultra, c'est quoi? C'est vouloir être ultra. C'est en gros, le mouvement ultra s'est constitué en disant, nous, on n'est pas des supporters officiels. Et nous, on n'est pas des hooligans. Et donc, concrètement, si on veut revenir sur des caractéristiques objectives, si tu décris un ultra aujourd'hui, c'est quoi? C'est un style de supporterisme particulier. Donc organisé, spectaculaire, tifo, etc. Un soutien, une fidélité. On est tout le temps présent au stade. Notre objectif, c'est le stade. L'ambiance au stade à domicile comme l'ambiance au stade à l'extérieur. On est autonome par rapport aux associations officielles. Si on se positionne quasiment comme un syndicat des supporters. Si on a des choses à dire contre les dirigeants du football à l'échelle nationale, contre les dirigeants de notre club ou nos joueurs, on le dit. Et on n'est pas des hooligans en ce sens que la violence n'est pas notre objectif premier. Mais... on est ultra, comme notre nom l'indique, et donc on va jusqu'au bout du supporterisme, et si pour, je reprends leur propre terme, se faire respecter ou se faire entendre, à certains moments il faut être violent, eh bien on acceptera de le faire. Donc en fait, le mouvement ultra s'est constitué par la volonté d'avoir une forme de supporterisme particulière, de jouer ce jeu-là, cette compétition, parce qu'en gros les ultras sont en compétition les uns aux autres, il y a une compétition parallèle à celle du
football. Oui, regarder les vidéos de ce que les autres ont fait,
et voir comment ils arrivent dans la ville, à combien ils sont, comment ils font
des animations,
les tout ça. Voilà, et donc, en gros, le mouvement ultra se constitue en France entre 85 et 95, avec la période essentielle du début des années 90, où il y a le bouquin de Broussard qui fait connaître le mouvement ultra à quelques passionnés des tribunes, et puis ensuite, il y a un magazine qui s'appelle Supmag, qui de 92 à 95 parle tous les mois des supporters, qui est vendu en kiosque et qui va donner une visibilité à ce qui se fait dans différentes villes. Et donc, à partir du milieu des années 90, le mouvement ultra est implanté. Bon, en gros, pour moi, une barrière importante, c'est début des années 90, Saint-Etienne commence à avoir des vrais groupes ultra, les Magic Puis, puis les Green, et puis 94, les Tigers à Lens. Tu vois, quand t'arrives à avoir un groupe ultra comme les Tigers à Lens qui se constitue et qui dit, ils ont galéré au début, mais nous on implante une nouvelle culture. Tu vois que t'es passé sur un autre registre. Oui, et donc en fait, les ultras ont terriblement, c'est marrant parce qu'ils parlent de foot populaire aujourd'hui, mais ils ont terriblement transformé les stades, parce que ils ont renforcer ou créer des COP où il y a essentiellement des jeunes, même si les gens restent ensuite avec l'âge, mais où au départ t'as essentiellement des jeunes, avec des styles de supporterisme qui sont complètement nouveaux et qui tranchent avec ce qui se faisait dans les années 70, quoi. Donc, le mouvement ultra a transformé les stades avec une ambiance. Avant, tu chantais en fonction du déroulement du match. C'est ce qu'on retrouve à Paris. C'est assez intéressant. À Paris, au Parc des Princes, l'ambiance est complètement tributaire du match. Avec les groupes ultra, l'ambiance, elle est quasiment constante, ouais. C'est-à-dire que il y a l'idée que ton devoir, c'est de soutenir ton club en permanence. Et donc, tu vas essayer de chanter tout le match, quoi.
Petite.
Non, juste parce qu'on parlait de Paris, je me faisais une réflexion.
On va essayer d'aller assez vite parce qu'il y a la pause qui n'a pas tardé, donc il reste quelques minutes.
Pour ce qui est de l'ambiance, où Nicolas disait justement que dans certains stades, et notamment des fois chez nous aussi, ça fluctue en fonction
du match, du déroulement.
Pour être allé quelques fois au Parc des Princes, et notamment.
L'ancien parc.
Et notamment la période, il y a une dizaine d'années, 7-8 ans, où il se cassait un peu. Il y a eu une période un peu.
Il y a eu quelques périodes
Périodes, mais paradoxalement, c'est là où personnellement, j'ai vécu les plus grosses ambiances.
C'est là où Auteuil était au top, où t'avais Boulogne qui descendait. Mais
voilà,
moi j'habite en région parisienne l'année où ils ont joué le maintien avec Amara Diané. J'ai fait quelques matchs en spectateur pur au Parc des Princes. Il y avait une ambiance de.
C'était la folie. Et les mecs, pourtant, ils jouaient, comme tu dis, avec Amara Diané et compagnie. Et pourtant les mecs ils étaient à deux de se péter la tronche, mais ça voilà, ou comme on voit souvent quand Saint-Étienne est en D2 il y a 10 ans, ça faisait combien, 15 ou 20 000.
Ça a pas toujours fait à 15 ou 20 000 hein, Saint-Étienne.
Enfin, il
y a eu un gros trou à la deuxième partie des années 90. À des moments, ils se retrouvent à 6-7 000. Et d'ailleurs, ils en reparlent souvent comme un moment qui a été un vrai creux de la passion footballistique à Saint-Étienne. Mais sur Paris, il y a un truc dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Ce qui est un peu embêtant aujourd'hui, c'est que on a un débat un peu piégé. Il y a les gens qui vont dire avant c'était fabuleux, il y a une superbe ambiance, et d'autres qui vont dire ouais, mais avant il y avait beaucoup de violence, et donc c'est mieux maintenant. Et en fait, moi, il me semble que l'enjeu serait dépasser cette opposition. Effectivement, il faudrait arriver à trouver une troisième configuration où tu gardes l'ambiance d'avant, qui pouvait être à certains moments fantastique, en essayant de lutter contre la violence et le racisme, qui étaient quand même des plaies immenses à Paris. Et là, aujourd'hui, on a essayé de casser la violence et le racisme avec un certain succès, faut le reconnaître. Mais par la même occasion, on a cassé toute l'ambiance populaire.
On a balancé le PV avec l'eau du bain, quoi.
Mais c'est un peu dommage. Et c'est un peu la faute de tout le monde. C'est aussi les supporters qui ont à se le reprocher. C'est le club et les supporters.
Ça va justement peut-être être la dernière question sur cette partie. Avant la pause musicale.
Oui, j'avais
vas-y Clément, vas-y.
Alors, on a parlé donc de ça, de ce mouvement ultra qui naît donc en France. Donc comme tu l'as dit, hein, surtout donc enfin milieu des années 80, on va dire, et les années 90. Ça va au-delà, clairement. On parle souvent donc des amitiés. Alors on connaît les auditeurs qui nous écoutent sont au courant sans doute de celles qui existent entre les ultramarines et les Magic Fans de Saint-Étienne. Il y a aussi des groupes ultras qui se détestent les uns et les autres, même plus finalement que ceux
Bordeaux,
qui
s'aiment. Bordeaux, Niçois, ça c'est pas trop. Voilà.
Ouais, bon, les Marseillais pour voilà.
Je pense qu'il faut être raisonnable. Marseille. Voilà, on a des ennemis préférés quand même.
Oui, il y a certaines rivalités purement historiques et footballistiques. Il y a des rivalités entre groupes qui ont raison.
Est-ce qu'on peut pas dire du coup que ce monde ultra aujourd'hui dépasse le seul cadre du football? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire finalement il y a la vie du groupe qui est parfois aussi importante que la vie du club en lui-même.
Ils ont une vie associative. Donc, par exemple, les ultramarines, on ne sait pas forcément, et c'est un des trucs qui sont à souligner. On en parle avec Seb en antenne il y a quelques jours. Des fois, ils font des collectes pour de vêtements pour des associations. Ils font des concerts. En gros, ils ont une vie associative entre guillemets normale hors foot. Et donc, j'en reviens à la question.
Là, ça dépasse le cadre du foot aujourd'hui, finalement, le groupe ultra.
Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a une dimension associative et il y a une double passion qu'on évoquait tout à l'heure. La passion pour ton club, pour le foot d'un côté, la passion pour ton groupe et ce que tu fais de ton groupe. Et on parlait de Marseille. Marseille, il y a un rôle social des groupes de supporters. Après, on peut discuter de certaines formes qu'ils prennent au niveau des abonnements, etc. Mais les groupes marseillais ont un rôle social profond dans la ville que tu vas retrouver sur certains groupes ultra. Bon, on évoquait les actions des ultramarines, d'autres groupes ultra font la même chose, l'idée de collecte, l'idée d'une vie associative, et aussi l'idée que tu vas permettre à des jeunes de connaître des expériences qu'ils ne connaîtraient pas dans le cadre du foot et d'accéder à d'autres choses, mais on va organiser un concert, on va
des
organiser
responsabilités,
des responsabilités.
Des voyages.
Combien de jeunes ultra disent à moi, ça m'a forgé en tant que mec de participer à des groupes.
Ça peut même forger des filles, mais ça serait un autre débat, mais oui, il y a une vie associative, et donc je le prendrais beaucoup plus sur cette question de la vie associative et de l'idée on s'implique dans le foot et on cherche à construire quelque chose entre amis, autour de ça, que sur la question des rivalités et des haines, dont certaines sont des rivalités sportives. Bon, Bordeaux-Marseille, c'est une rivalité sportive, voilà. Après, vous évoquiez Bordeaux-Nice, c'est une rivalité ultra qui ne touche absolument pas le reste du public. Enfin, il y a différents niveaux de rivalité, mais sur l'idée que le mouvement ultra dépasse le cadre du foot, oui, moi je le verrais plutôt sur cette idée-là. À partir du moment où tu développes une vie associative, tu développes une certaine vision du football, mais aussi de ce que doit être une association juvénile, finalement, tu vas t'impliquer dans d'autres choses, dans des manifestations culturelles. dans des manifestations politiques, mais pas au sens forcément droite-gauche, mais de je m'intéresse à la vie de ma cité, je me positionne sur certains enjeux. Et oui, là, c'est l'un des intérêts aussi de ce mouvement ultra en France et puis à l'étranger, c'est d'avoir une conscience sociale au sens large, quoi.
Pour en revenir aux rivalités, le cas de Paris avec les rivalités entre groupes ultra dans le même club, c'est comment ça s'explique ça? Est-ce que c'est...
Bah, comment ça...
Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Faut connaître l'histoire du... Enfin, tu vois, pour le...
Ah bah, il la connaît, il a écrit un truc de 5 pages dans son foot.
Non.
Plus même d'une dizaine.
Non, mais je veux dire, ça part...
Allez, les gars, souper, on laisse Nicolas répondre, histoire qu'on puisse...
On peut faire la pause quand tu veux. Tu me dis, je réponds quand tu veux. Tu veux que je réponde maintenant ou après?
Je veux que tu répondes maintenant et comme ça, après, on attaque la partie tribune bordelaise.
D'accord.
Après la pause.
Non, sur Paris et puis même plus largement, il faut quand même qu'on voit qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a eu des oppositions en groupe de supporters. Il y en a eu à Marseille, il y en a eu à Saint-Etienne. Bon, Paris, ça a été la plus importante parce qu'en fait, il y avait un clivage entre deux tribunes, un clivage à différents niveaux. La première tribune, c'est Boulogne avec une matrice essentiellement de supporterisme, essentiellement anglaise, même s'il y a les Boulogne Boys comme groupe ultra au milieu. En face, le club crée Auteuil pour avoir une mentalité moins violente, pas politisée du tout.
À l'arrivée de Canal+.
À l'arrivée de Canal+. Donc, émergent des groupes ultra qui vont très vite monter en puissance et sur un modèle complètement italien. Donc déjà, tu as une culture différente. T'as une culture différente, t'as une question de prééminence, quelle est la première tribune, et puis après, petit à petit, à partir du moment où Auteuil se constitue, elle se constitue aussi avec tous ceux qui peuvent pas aller à Boulogne. Donc Auteuil est une tribune multiculturelle, tout le monde a dit les fachos contre les racailles, c'est complètement caricatural. Auteuil, t'as des blancs, t'as des jaunes, t'as des noirs, etc. T'as de tout, c'est une conception ouverte de la région parisienne. La conception de Boulogne, c'est plus une conception ouest parisien, plus France blanche, pas forcément uniquement d'extrême droite, hein. C'est l'idée, pour le coup, là, le terme racaille est pertinent, c'est plus une idéologie anti-racaille. C'est-à-dire que on peut se faire emmerder dans nos quartiers quand tu interroges les types de Boulogne. Je vote pas forcément Front National, mais je suis content d'avoir mon territoire à moi. Et donc, en fait, il y a une opposition qui s'est faite entre ces deux tribunes. Pendant longtemps, Auteuil a fermé sa gueule.
Et même
quand ils étaient plus forts, c'est-à-dire que Auteuil est monté en puissance. Petit à petit, Auteuil a été plus fort en ambiance à domicile. Mais il continuait à dire, nous, voilà, on est profil bas derrière Boulogne. Et puis Auteuil a été plus important en déplacement. Mais il disait, bon, c'est encore Boulogne les plus forts. Et puis il y a, bon, le groupe qui fait le tournant, c'est quand même les Tigris Mystiques, un groupe ultra de Auteuil, qui lui va commencer à dire, ben on est ultra, donc on s'affirme dans la rue. Ce que, contre les supporters adverses, hein, pas spécialement contre Boulogne, ce que les autres groupes ultra d'Auteuil avaient jamais fait. Et petit à petit, ben, les Tigris, qui étaient un groupe ultra, mais vraiment très important, ont pris une ampleur très très forte, au point de plus vouloir se faire marcher sur les pieds par Boulogne. Parce qu'avant, quand Boulogne en avait marre, ils foutaient trois baffes, les mecs d'Auteuil disaient rien. Et puis, au bout d'un moment, les Tigris ont dit, ben non, nous, on compte pas les Chines. Et donc, on est rentré dans un premier conflit qui s'est, en 2003-2004, qui s'est calmé quand le club a essayé d'aseptiser tout ça, mais en tapant sur tout le monde, en tapant sur les hooligans, les ultras, enfin, sans faire de quartier. Donc, ils ont réussi l'exploit assez fabuleux de fédérer les types qui étaient en train de s'opposer. Et puis finalement, le conflit Tigris avec les hooligans est reparti avec une année terrible en 2005-2006 avec des bagarres mais incroyables à chaque match. C'était n'importe quoi. Et donc finalement, les Tigris finissent par s'autodissoudre. Et c'est de ces gros conflits que vont naître les changements législatifs avec l'interdiction administrative de stade, donc qui passe plus par un juge, qui peut passer par le préfet directement sans condamnation, et puis les dissolutions de groupes de supporters. Donc ça, c'est vraiment une année charnière 2005-2006. Et après, ça se calme et ça repart sur la fin des années 2000, du fait de changements générationnels tant du côté Boulogne que du côté Auteuil. Et juste pour finir par rapport à la question, comment on peut être assez con pour se taper quand on est supporter d'un même club? Moi, je dirais qu'à la limite, qu'est-ce qui est le plus con? Se taper quand t'es supporter de Bordeaux contre des supporters de Strasbourg que tu connais pas, tu sais même pas ce qu'ils pensent et s'ils sont pas pareils que toi, ou de te taper, parce que les mecs de Boulogne et d'Auteuil, ils se tapaient dessus, mais ils avaient des raisons.
Ils savaient pourquoi.
Pourquoi. Ils avaient des antagonismes individuels, ils avaient des antagonismes politiques, ils avaient des antagonismes en termes de modèle. Tu vois, c'est pas incohérent de dire, ben nous on représente des visions différentes du mouvement supporter ou de l'identité parisienne. Et donc là, t'as des vrais conflits. Et quand t'as des mecs un peu chauds, ça dérape. Des fois, quand tu vois, enfin, des bagarres Bordeaux-Strasbourg, je prends cet exemple parce qu'il y a eu ça a été un conflit au moment où les deux clubs étaient en D2. tu te dis que les mecs au fond peut-être c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est né au nord-est et l'autre au sud-ouest. Donc quand on dit on est con pour se taper dessus quand on supporte un même club, regardons, les mecs ils se connaissent, ils savent peut-être qu'ils ont des bonnes raisons de passer.
Ça va au-delà de ça justement. Ça va bien au-delà de cette simple question.
Ouais. C'est très intéressant en tout cas tout ça, moi j'aime beaucoup.
À la première,
on va faire la pause.
J'ai regardé ma montre il y a 10 minutes, j'ai fait punaise, il est déjà 50.
Exactement.
Ça veut dire qu'on va faire la pause.
On va faire la pause. On rappelle donc Nicolas Orcade, sociologue. Spécialiste du monde supporter est avec nous, c'est un grand plaisir, on le répète, on le redit, voilà. Ça fera la lèche, comme
on est content.
Moi je suis content d'être avec vous.
Donc. On vomit pas, mais on est content. Cool.
Et donc, du coup, on se retrouve juste après la pause dans Girondalise en 90.7 sur RIG.
Personne n'a compris la référence à la cité de la peur.
Bien sûr, évidemment.
Je sais pas, on est fois.
Je lance ma pause. Moi. Et donc, du coup, on va pouvoir lancer cette
manger
pause. On se retrouve. Exactement, on va manger le dessert, nous. On se retrouve donc juste après dans Girondalise en 90.7 FM et sur le net sur girondin33.com et girondalise.com. A tout de suite.
Les Girondins font partie de votre vie. Dites sur Girondin Analyse tout ce que vous pensez en bien, en mal, et soutenez toujours les Girondins.